Sud Radio, Place du Marché, Vincent Fernand.
Les amis, bienvenue Place du Marché en ce dimanche 29 décembre. On dirait bien, sans prendre de risque, que l'année touche à sa fin. On est tendance ce matin. On est même très, très, très tendance puisque je me suis entouré de ma garde rapprochée de tendanceurs. Bien que je ne sois pas l'empereur de la tendance, hein, ça se saurait depuis le temps. Alors d'abord, bonjour à tous les tendanceurs. Bonjour Anne de Bâche.
Bonjour Vincent.
Comment ça va?
Très bien.
C'est bien, hein, l'année touche à sa fin, ça va? Vous êtes toujours là, bien en forme.
En forme et...
Malgré de nombreuses dégustations hein, cette année. Hein.
Grâce à...
oui, grâce à... Priscilla Lanzarotti, bonjour.
Bonjour Vincent.
Vous aussi? Pleine pêche ?
La pêche.
Les fêtes se sont bien passées, enfin en tout cas là, jusque-là.
Super bien, riche en gourmandise.
Ah oui, puis on monte jusqu'au réveillon de la Saint-Sylvestre, hein, il faut encore regarder sous le pied, comme on dit. Morgan Abou, bonjour.
Bonjour Vincent.
Tout va bien Morgan ?
Ça va très bien, je me remets difficilement de Noël, mais là je suis prêt sur les starting blocks pour le nouvel an.
Ouais, et puis vous avez pas mal voyagé cette année, je suis content que vous soyez là pour cette dernière
merci
de l'année
m'accueillir.
À mes côtés. Et puis nous aurons tout à l'heure en ligne Alexis Gondet Garozzo, notre pizza boy. Et lui, alors, il est en Italie. Hein. Bah oui, il est parti. Je lui avais dit, il reste pour l'émission la dernière d'année, mais non, il est du côté de Naples, je crois, et on l'aura au téléphone pour nous parler pizza. Alors, tout d'abord, en un mot, mes amis, un tendanceur, c'est quoi? Hein, parce qu'il y en a qui entendent ce mot pour la première fois, puis c'est pas fini à mon avis. Alors, c'est cette fine équipe d'Instagrammeurs, Youtubeurs, Blogueurs, qui sont mieux que des influenceurs. Pourquoi? Parce que les influenceurs, c'est souvent des influenceurs autoproclamés et qui n'influencent pas grand monde, si ce n'est les marques et les enseignes aveuglées par leurs followers, souvent achetées à vil prix sur des sites d'esclavage sur Internet, l'esclavage numérique, et qui déboursent des sommes inconsidérées pour leur faire placer leurs produits auprès des suiveurs, hein, des followers, comme on les appelle. Alors, le tendanceur, c'est pas ça. Le tendanceur est un passionné qui possède en général un métier, un vrai métier, dans un autre secteur d'activité, et qui rend compte de ses expériences, alors gustative, hein, pour ce qui m'intéresse, moi c'est le plus intéressant pour moi, devenant ainsi un expert dans un domaine bien précis. Pour ceux qui m'entourent, expert de la food, comme on dit, hein, parce que la food c'est plus chic que l'alimentation, hein, au moins on sait de quoi on parle. Alors je l'ai salué à l'instant. Alors nous avons Anne de Bâche, surnommée Sœur Chocolat, enfin... Plus exactement, c'est avec votre sœur Caroline qu'on dit les sœurs chocolat.
Exactement, les sœurs chocolat.
Les sœurs chocolat, ça vous dit tout de suite quel est le domaine d'activité, le domaine de compétence. Anne de Bâche, vous pouvez rappeler l'adresse sur Instagram, votre adresse de votre page, de votre compte.
Le chocolat dans tous nos états.
Oui, c'est alors généralement ça dépasse des lignes. Hein, quand vous voyez, vous verrez marqué le chocolat dans tout, puis des trois petits points parce que c'est un peu long, mais bon, ça à l'époque vous n'y aviez pas pensé. Gros succès évidemment. Priscilla Lanzarotti. Alors c'est pas sur chocolat, c'est Priscilla folle du dessert.
Voilà, folle du dessert, de la pâtisserie.
La pâtisserie en général, c'est incroyable. J'aimerais que vous la voyiez parce qu'elle a une ligne absolument impeccable. Je dirais même en dessous de la moyenne. Et vous mangez des gâteaux toute la journée, toute l'année.
Deux par jour. Minimum.
Deux par jour. C'est voilà. La dose minimale.
C'est la dose minimale pour passer une super journée.
Sinon, elle survit pas, la pauvre Priscilla. Et puis, nous avons Morgan Abou. Alors, Morgan, je vais vous éviter tout ce que vous avez dû entendre à l'école depuis que vous êtes gosse, qui doit vous gonfler à bout de souffle, à bout de nez, à bout de course. Parce que vous n'êtes pas à bout du tout. Moi, je dirais plutôt à bouffe tout.
Hein? Voilà. Oui, moi tout m'intéresse, je veux tout tester, je suis obsédé par les nouvelles tendances.
Voilà, les nouvelles tendances et la world cuisine, comme
la
on dit,
cuisine.
Toutes les expériences culinaires,
exactement.
D'où qu'elles viennent.
Rien
alors,
ne me fait peur.
Priscilla, folle du dessert, eh ben, votre compte, c'est simplement votre nom.
Voilà, c'est mon nom.
Priscilla Lanzarotti.
Priscilla Lanzarotti.
Hein, avec
une vraie identité. Ouais.
Avec l'arrobas devant, hein, évidemment, si vous Instagrammez, vous le savez. Et l'Instagram de Morgan Abou, c'est pareil.
Oui, avec deux B, Morgan Abou, deux B.
Voilà, Morgan Abou. Et alors, je vous le disais, on aura en ligne notre pizza crusader, notre pizza boy Alexis Gondec-Garozzo, qui lui, évidemment, ne remplit ses comptes et ses images que de pizza. C'est pas trop de saison en fin d'année. Hein. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de pizza au réveillon de la Saint-Sylvestre, mais en tout cas, voilà, je voulais vous le dire. Donc, mes amis, on va immédiatement plonger dans le vif du sujet. J'ai demandé à mes tendanceurs, cette fine équipe, de faire un petit peu le point sur l'année 2019, dans le rétroviseur, de regarder quels ont été leurs coups de cœur. Et puis en fin d'émission, on vous parlera des tendances pour 2020, mais c'est encore un petit peu prématuré. Allez, on va commencer par Anne de Bâche, pour égrainer quelques coups de cœur de l'année 2019. Vous avez dû en manger du chocolat, d'autant que vous êtes rentrée au club des croqueurs. Cette année.
Tout à fait.
Mmh, ouais, ça manquait.
Tout à fait.
Ça manquait. Alors, allez-y, je vous écoute.
Alors, dans ce que j'ai goûté cette année et la grande tendance que j'ai trouvée, c'est une montée en puissance de la qualité gustative du chocolat noir.
Oui.
Et aujourd'hui, on voit de plus en plus sur les tablettes apparaître les terroirs, même des micro-terroirs, et certains chocolatiers vont même jusqu'à mettre le nom des planteurs sur leurs tablettes.
Ah oui, comme on le fait à la carte des grands restaurants étoilés où on met le nom de son maraîcher ou de son, de son boucher, etc. Donc on fait la même chose maintenant chez les chocolatiers.
On commence à le faire et certains artisans chocolatiers le font en mettant vraiment le nom du planteur sur la tablette. Sinon, on a le nom des origines, Venezuela, Mexique. Donc on voit de quel pays viennent les fèves.
Alors ne vous étonnez pas donc, hein, si vous êtes confronté avec ce côté un petit peu artisanal à avoir le nom sur la tablette, c'est tout à fait normal.
C'est même très bien.
Vous le préconisez ?
Ah oui, tout à fait.
Mais est-ce que ça vient pas aussi de cette recherche d'éthique, de durabilité ?
C'est tout à fait ça. C'est la responsabilité, c'est rendre aussi honneur au planteur qui va cultiver les fèves et ensuite les vendre au chocolatier pour qu'il les transforme.
Oui. Le fameux bean to bar de la fève à la tablette.
Voilà, ça c'est vraiment une tendance très forte pour le chocolat noir. Mmh. Pour le chocolat au lait, on a aussi une tendance qui se révèle cette année, qui est des pourcentages très élevés de cacao. Et donc, quand on lit la liste des ingrédients, normalement, un chocolat au lait commence par le sucre. Donc, c'est l'ingrédient en quantité la plus importante dans la tablette. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de tablettes au chocolat au lait qui commencent par la pâte de cacao.
Donc, le cacao plus important que le sucre.
Comme dans une tablette de chocolat noir.
C'est
très bon signe. Et donc, on a des pourcentages de cacao qu'on peut lire sur la tablette qui vont de 39% de cacao pour une tablette de chocolat au lait jusqu'à 65% de cacao,
ce qui est
énorme.
Mais c'est plus du lait à 65.
C'est du lait. Quand on le goûte, on a cette petite acidité du lait de vache, mais c'est beaucoup moins sucré.
Du lait de vache ou du lait végétal, hein, parce que ça aussi c'est une tendance, non ?
Exactement, j'allais y venir. Donc on a du lait de vache. Quand on reste dans les ingrédients animaux, j'ai même découvert cette année des tablettes au lait de brebis.
Ah oui.
Il y a deux...
Oui, je suis pas sûr que le goût me fascine.
C'est plus gras. En fait, le lait de brebis est plus gras que le lait de vache, moins sucré, et ça donne un petit goût plus acidulé. Il faut pas penser au fromage.
Hein. Morgan qui aime la cuisine méditerranéenne, je suis sûr qu'elle adorera retrouver le goût du mouton dans ses tablettes de chocolat.
Je sens une certaine fusion entre le fromage et le chocolat. Il y a un truc qui m'inspire là.
Bon, ça c'est en tout cas la tendance. Et moi, j'y souscris hein, pour le chocolat au lait parce que étant gosse, j'aimais pas trop le chocolat noir. Je suis venu au chocolat au lait et j'aime bien trouver des chocolats autour. Alors pour ma part, autour de 50%. Voilà, des chocolats au lait à 50% de cacao, ça me convient assez bien en teneur.
Après, ils sont même un 65% va avoir des notes qui ne vont pas rappeler forcément le chocolat noir, mais qui vont avoir des notes fumées ou tourbées. Donc c'est juste différent, c'est plus doux, ça reste plus doux qu'un chocolat noir.
Mm-hmm.
Mais c'est rassé.
Ouais. Oh. Comme vous avez dit ça, vous auriez dû voir Anne de Bâche se redresser sur sa chaise quand elle a dit le mot rassé. Hein, c'était impressionnant,
ouais,
Priscilla, non
ouais.
Hein, ça donnait presque le frisson. Bon, alors ça, c'est les grandes tendances en ce qui concerne les chocolatiers. Est-ce qu'on voit les mêmes dans la pâtisserie au chocolat ? Est-ce que c'est
alors, dans la pâtisserie au chocolat, mais Priscilla, tu complèteras ce que je vais dire, on voit aussi arriver des origines. Et souvent, les pâtissiers vont réfléchir à leur garniture, en fonction de l'origine qu'ils vont utiliser. Donc, ils n'hésiteront pas à vous dire, j'ai utilisé un chocolat du Venezuela pour ses saveurs tom-tom-tom. Et j'ai...
Tom-tom-tom,
Sao Tomé. Où j'ai utilisé un chocolat de Madagascar pour sa belle acidité et j'y ai associé des agrumes.
Alors, Priscilla, je me tourne vers vous, hein, puisque vous êtes notre tendanceuse, notre tendanceur, j'aime mieux dire comme une auteur, E-U-R-E, notre tendanceur pâtisserie. On a l'impression, en définitive, à travers ce que disait Anne de Bâche, que les pâtissiers savent de plus en plus ce qu'il y a dans les chocolats qu'ils utilisent.
Oui, bien sûr, la composition est importante, notamment pour équilibrer les saveurs entre elles. Mmh. Donc, ils vont jouer un peu avec les textures du chocolat, avec la puissance du chocolat.
Le gras, l'acidité,
le fruité. Ouais. Voilà, le fruité. Mais l'enjeu, c'est vraiment de trouver le bon équilibre dans la pâtisserie. Ben, sinon, le chocolat finit par prendre le dessus et le fruit
Enfin, cela dit, dans un gâteau au chocolat, que le chocolat prenne le dessus, je pense que c'est pas très gênant.
Quand il y a une petite alliance avec un fruit, ça qu'on aime bien sentir les deux saveurs. Donc, l'enjeu, pour moi, ça va être d'équilibrer ces deux saveurs.
Bon, allez, mes amis, on est avec les tendanceurs ce matin pour rappeler les tendances de l'année qui vient, mais surtout, ils vont nous donner leur coup de cœur, donner des médailles, voilà, à leur chouchou de cette année. On se retrouve dans une minute.
Sud Radio, Place du Marché, Vincent Fernand.
De retour, Place du Marché, avec une chouette équipe de tendanceurs. Vous n'avez jamais entendu ce mot? Les tendanceurs, ce sont ceux qui vous donnent la tendance sur les réseaux sociaux. C'est mieux que des influenceurs, parce que les influenceurs, ils cherchent à vous influencer d'une manière ou d'une autre, et il y a toujours une visée commerciale. Tandis que le tendanceur, lui, il est pur, il est dur, et dur, pas toujours d'ailleurs, il peut être doux aussi, mais en tout cas, il vous donne la tendance par pur plaisir. Voilà. Et nous sommes entourés d'Anne de Bâche, une sœur chocolat, parce qu'il y en a deux, figurez-vous, Priscilla Lanzarotti, qui est folle des desserts. Priscilla, folle des desserts, ça vous va tellement bien, Priscilla. Et Morgan Abou, notre spécialiste des cuisines du monde, on va dire de toutes les cuisines, en fait, parce que vous êtes vraiment pas sectaire, vous.
Ah oui.
Ah, vous mangez des trucs...
Ah
oui, ça goûte à tout. J'en suis la preuve vivante, parce que je le suis, moi, figurez-vous. Et ça m'étonne, parfois, il y a même des trucs incroyables. Alors, l'idée, c'est de vous donner la tendance, ce qui a évolué en 2019 et qui va ouvrir 2020, puisqu'on est vraiment dans la dernière émission de l'année. Priscilla, là, en matière de gâteaux et de desserts, qu'est-ce qu'on a vu émerger cette année? Quelles sont les tendances fortes?
Les tendances fortes, c'est pour moi de reprendre justement une pâtisserie, par exemple, donc le Paris-Brest, et de le remanier un peu à sa façon, en y ajoutant des textures assez surprenantes en bouche, pour qu'on ait un maximum de sensations. Je parle par exemple du Paris-Brest, donc avant, on connaissait...
Des grands classiques revisités.
Voilà, des grands classiques revisités, le millefeuille à la pistache, au praliné, au caramel, on a des Paris-Brest aux amandes, aux noisettes, à la pistache. Donc tous les grands classiques revisités.
Est-ce que ça veut dire qu'au fond, il manque de créativité
Non, au contraire. Parce qu'il y a deux pôles complètement différents. Il y a justement cette revisite des grands classiques, mais aussi cette capacité aujourd'hui à travailler le fruit de façon beaucoup plus approfondie et de le magnifier, ce fruit, donc dans les créations. Et de l'associer à des saveurs qui sont complètement, même à des fleurs, quoi, des notes florales comme le jasmin, comme...
À un moment, on a connu la nouvelle cuisine qui est venue bousculer, en fait, la cuisine traditionnelle, la cuisine bourgeoise. Est-ce qu'on s'aperçoit de la même chose en pâtisserie? Est-ce qu'il y a une nouvelle pâtisserie, en fait, qui donne des coups de pied, qui va, je sais pas, introduire des légumes, introduire des saveurs qui n'étaient réservées à la cuisine?
Aujourd'hui, oui, on a tendance aussi à travailler avec, à mêler les fruits et les légumes, comme c'était le cas justement de Pierre Hermé avec sa tarte parmesan, poivron et framboise, donc une association complètement incongrue, mais qui marche bien. Et vraiment, on cherche à expérimenter justement sur ce champ pour donner ces sensations-là, pour faire découvrir de nouvelles saveurs.
Élargir les gammes.
Élargir les gammes aussi.
Parce que ce sont des pâtissiers, mais ce sont aussi des vendeurs de gâteaux, Anne de Bâche.
Il y a aussi, je pense, pour compléter ce que dit Priscilla, quelque chose de très important, les pâtissiers essaient vraiment de désucrer et d'utiliser des produits de saison de plus en plus pour justement utiliser, par exemple, pour les fruits, la sucrosité du sucre. Et donc, sucrosité du fruit.
Oui, oui. Bah, je n'ai
pas mangé assez de chocolat ce matin.
Ouais, c'est ça, vous êtes un peu en hypoglycémie. En hypocacaotie.
Et donc, en utilisant la sucrosité des fruits, ça leur permet, entre autres, de mettre un peu moins de sucre blanc ou de sucre en général. Et ce côté, entre guillemets, bien-être, en tout cas recettes pensées différemment se voient aussi beaucoup.
Alors moi j'ai reçu dans cette émission en début d'automne Alix Bornon qui est Les Belles Envies à Paris, pâtisserie avec indice glycémique contrôlé, ça cartonne, parce qu'évidemment on mange des gâteaux mais on fait quand même attention, non pas seulement à sa ligne mais à sa santé, et on sait que le sucre c'est quand même l'ennemi. Morgan Abou, vous qui êtes un spécialiste donc des cuisines du monde, qu'est-ce que vous avez vu émerger peut-être des nouvelles nations sur la scène gastronomique?
De manière générale, ce que je vois, c'est la flamme qui arrive beaucoup, de plus en plus dans la cuisine.
Oui.
Et donc ça, c'est vraiment la cuisine du monde, où on va utiliser le barbecue, mais que ce soit en Méditerranée, mais aussi en Amérique du Sud, justement pour donner des nouvelles saveurs en fait à la viande, au poisson.
Des nouvelles cuissons, quoi.
Voilà, exactement, des nouvelles cuissons.
Avec un retour à une certaine naturalité, si
exactement,
je comprends bien.
Voilà, retour aux sources, et qui vont même se manifester avec le chalumeau, où on va terminer en fait avec un chalumeau.
Comme pour une crème cuisson. Brûlée.
Exactement, exactement. Un poisson qu'on va terminer directement avec le chalumeau devant vos yeux. Donc il y a une cuisine aussi.
Ah mais moi je le fais, hein. Je vous le dis, hein, Morgan. Ouais. D'ailleurs si vous nous écoutez, je sais pas si je fais un gratin de chou-fleur par exemple et que je trouve qu'il sort un petit peu du four en manquant de couleur, j'hésite pas à regriller en quelque sorte au chalumeau de cuisine. Voilà. Hein, y a pas de raison de pas le
exactement.
Faire. Parce que le fromage, ça lui va bien en général, hein, si on a eu le fromage ou de la crème dessus.
Exactement.
Voilà. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Parce
non, mais c'est
vive le chalumeau.
Ouais, vive le chalumeau. Et donc là, avec le chalumeau, on vient sur cette cuisine aussi spectacle. On attend aussi que les cuisiniers sortent, les chefs sortent de leur cuisine, viennent devant nous, terminent le travail devant nous. Et ça, je le vois de plus en plus. Donc, on parlait de chalumeau, mais on va aussi avoir des fumées qui vont sortir sous la cloche de plus en plus.
On met en scène aussi. On met en scène en salle.
On termine
la cuisson.
Exactement.
Comme le faisait jadis le personnel de salle qui avait laissé tomber complètement ses desserts où on terminait un plat, où on découpait. Il y a un retour de la mise en scène, peut-être même dans la bistronomie.
Exactement.
D'ailleurs, je me disais, moi, je pensais aux fours à bois qui sont vraiment l'apanage des pizzaioli. On en parlera avec Alexis tout à l'heure au téléphone. Mais on retrouve ça en cuisine. Je pense à ces fours Pyrol qui sont faits dans le sud de la France, des fours à bois très chauds. J'ai vu des restaurants qui font justement, qui utilisent le four à bois, c'est-à-dire qu'on revient des cuissons anciennes.
Complètement. Et on s'aperçoit qu'en fait ces fours-là, on les retrouve à l'international. Il y a ce fil conducteur en fait. Et voilà, ça donne ce goût. Fumé.
On demandera à notre pizza boy tout à l'heure si c'est une tendance qui continue de perdurer dans la pizza. Dans la pizza, ça se justifie, hein, parce que c'est vraiment, si on n'a pas un four à bois, je dirais que c'est presque dommage. Allez, tout de suite, je voudrais avoir vos coups de cœur, parce que ceux qui nous écoutent, ils ont faim, ils commencent à avoir, ils veulent des adresses, ils veulent des noms. Anne de Bâche, on y va avec le chocolat ?
On y va.
Allez, je vous écoute.
Alors, pour revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai déniché mon coup de cœur à Marseille. Premier coup de cœur.
Génial.
La baleine à cabosse.
La baleine à cabosse. Alors, à cabosse, hein, c'est un jeu de mots, évidemment. La cabosse, vous savez, c'est le fruit du cacaoyer.
Donc, la baleine à cabosse, ce sont deux jeunes qui se sont reconvertis et qui ont ouvert leur chocolaterie. Là aussi, ils vont chercher leurs fèves, ils les transforment en tablettes de chocolat. Donc on revient sur les origines, les micro-terroirs. Et ils font des chocolats très très aromatiques qu'il faut absolument goûter. Ils font aussi des ateliers pour apprendre à faire du chocolat et je trouve ça très intéressant.
Ah oui,
il y a aussi une démarche pédagogique.
D'accord.
Voilà.
Oui, et ils ont le temps de faire ça ?
Parce que quand ils le prennent.
Ouais. Ouais, ça doit être.
Ils le prennent.
Ils sont au four et au moulin, alors.
Voilà.
Hein. Parce que c'est compliqué de faire de la pédagogie quand on est déjà dans son labo toute la journée à. Oui, bon, d'accord.
Quelques ateliers pour des amateurs. Voilà,
d'accord.
On prend un petit peu de temps. Un deuxième coup de cœur ?
Bien sûr.
À Lille ?
Ouais. Ouais, ça, je commence à imaginer de qui il s'agit.
Voilà, une autre tablette, Encuentro, qui là aussi, ce sont deux jeunes qui ont changé de métier, changé de vie pour faire du chocolat. Et donc, ils font des tablettes aussi où ils vont aller sourcer leurs fèves de cacao pour faire, là aussi, des chocolats très aromatiques. Et notamment, j'ai pensé à vous, ils font une tablette de chocolat et café. Alors, je sais
ouais, non,
que
mais
l'association
moi,
est compliquée.
Oui, mais moi, je ne mélange pas les genres. Hein.
Mais,
je ne fais pas la pub du café.
Mais il faut ouvrir, il faut être aussi ouvert que Morgan.
Ah oui, il faut être aussi ouvert en pâtisserie et en confiserie qu'en cuisine. Il faut tout goûter, bien sûr. Priscilla, vous nous donnez deux coups de cœur ?
Alors, le premier, c'est le chazadet de Claire d'Amont, des gâteaux et du pain.
Qu'est-ce que c'est ça, le chazadet ?
Ça
semble assez persan hein, comme nom.
Le chazadet, ça a été un coup de foudre, un réel coup de foudre. Et voilà, ça m'a vraiment transportée dans un jardin de saveurs teintées de douceur et de délicatesse. Il est composé, donc cette pâtisserie est composée d'une mousse parfumée à la pistache de Bronte, qui est si légère et aérienne qu'on a l'impression de vraiment de flotter sur un nuage.
Alors pour ceux qui nous écoutent, Bronte,
voilà,
c'est sur
Bronte,
les pentes de l'Etna. Hein,
sur les pentes de l'Etna, exactement. D'un crémeux onctueux parfumé subtilement à la fleur d'oranger. À la rose, excusez-moi.
Ah ouais, ouais.
À la rose de Cachan. Donc là, on est en Iran. Donc on a un vrai voyage gustatif.
D'où le nom de Shahzadeh. C'est vraiment iranien comme consonance, persan.
Et qui délie de jolies notes florales sur nos papilles, apporte un petit vent de fraîcheur. Et d'une dacquoise à la pistache. Voilà.
Ah bah là encore, l'Iran.
Et donc,
pistache et rose. C'est vraiment un voyage en Perse. Claire Damon, c'est une copine de Christophe Michalak, notamment. C'est-à-dire, elle est vraiment très introduite et très présente dans le monde des pâtissiers parisiens. Est-ce qu'elle végète pas un petit peu? Parce que moi, je pensais qu'elle serait plus connue qu'elle. Elle reste un peu confidentielle. Claire.
C'est une femme qui n'aime pas s'exposer médiatiquement, qui travaille beaucoup dans l'ombre et qui nous épate toujours par ses créations qui sont d'une justesse et d'un équilibre parfait, tant au niveau des saveurs que des textures.
Mais à côté de tous ces garçons, Cédric Grelet en tête, là, qui ne vivent que sur les réseaux sociaux, on n'entend pas beaucoup parler d'elle et pourtant c'est une grande pâtissière.
Non, on n'entend pas beaucoup parler d'elle, mais c'est une volonté de sa part.
Ah aussi,
voilà,
d'accord, de travailler tranquillement.
Elle a sa réputation déjà dans son quartier et en dehors, tout le monde la reconnaît.
Morgan Abou, donnez-nous aussi un coup de cœur pour nous allécher.
Alors moi, je vais vous donner un coup de cœur que malheureusement, vous n'irez pas tester.
Ah bah, ouais, pourquoi?
Parce que
le restaurant a fermé.
Parce que c'est un restaurant éphémère. Et je trouve, justement, sur les tendances qui doivent arriver, il faut que ça continue. C'est donc Tontine, donc de Céline et Julien Femme, donc qui a ouvert pendant quelques mois sur le Perchoir.
C'est où ça?
Et c'est dans le 11e.
D'accord, à Paris.
À Paris. Et donc qui a fermé ses portes la semaine dernière. Mais c'était prévu d'avance.
Dommage.
Et voilà.
Vous êtes dur avec nous,
Mais oui, mais oui.
C'est pas sympa.
Mais en même temps, c'est un tel coup de cœur. Le principe, c'est ces restaurants éphémères qui font venir plein de cuisiniers du monde entier. Mais alors vraiment, jusqu'à l'Australie, etc. Tout le monde se battait pour venir chez eux. On proposait chaque jour des cuisines différentes. Et le principe de ce restaurant, c'est qu'en fait, il va se déplacer. Il n'y a pas de lieu. Il va aller un peu partout.
Ah ben, on va les retrouver alors.
Donc oui, j'espère bien.
Moi aussi j'espère, donc. Parce que vous êtes là pour nous aller... En fait, mais vous êtes un peu sadique.
Ah, totalement sadique. Je voulais, voilà.
Mais c'est bien. Non, ce qui est important, c'est de parler de ces créateurs que l'on va retrouver forcément. Ils ne vont pas s'arrêter de cuisiner parce que le restaurant éphémère a fermé.
Bien sûr. Hein.
Mais vous avez raison, l'éphémérité, ça fait partie aussi du plaisir et de ces sensations. Il faut avoir le manque, quoi, gérer le manque.
Exactement.
C'est comme les cerises, chaque année, ça n'aurait pas de sens d'en manger toute l'année. Qu'est-ce qu'on est content de les retrouver au mois de juin, par exemple. Allez, on va immédiatement écouter quelques publicités. C'est la vie, ça. Oui, c'est la vie de la radio. Et on se retrouve après. On va téléphoner à Alexis, notre pizza boy.
Sud Radio, place du marché, Vincent Fernion.
De retour, place du marché, à fond dans la tendance, avec l'équipe des tendanceurs, très active sur Instagram. Je vous rappelle la page, c'est @les.tendanceurs, au pluriel, CURS, c'est très simple, si vous voulez avoir un peu l'actu. Et puis chacun a son adresse que l'on redonnera au fur et à mesure. Alors, on était avec Anne Debache, spécialiste du chocolat, avec Priscilla Lanzarotti, spécialiste de la pâtisserie, avec Morgan Abou, spécialiste des cuisines du monde, de tout goûter, en fait, c'est un outre-manger. Bonjour Morgan Abou. Et on va téléphoner immédiatement, passer un petit coup de fil de l'autre côté des Alpes, dans la botte et en bas de la botte, puisqu'on va du côté de Naples avec Alexis, notre pizza boy. Bonjour Alexis.
Ciao Vincent, comment ça va?
Ça va pas mal, c'est à vous qu'il faut demander ça. J'espère que vous avez beau temps, s'il y a un peu frais toujours.
C'est plutôt moi de vous demander comment ça va à Paris.
Écoutez, c'est bon, on va pas se plaindre. En même temps, si je vous dis un temps de saison, vous avez tout compris. On est quand même à fin décembre. Allez, Alexis, je vous ai présenté tout à l'heure pour dire que vous étiez un dingue de pizza, au point que c'est pas votre métier, puisque vous êtes barman et même barman de nuit dans la capitale, mais vous mettez tous vos loisirs à profit pour trouver les grands pizzaiolos du monde.
C'est exactement ça, ouais. Et je fais aussi beaucoup de sourcing, parce que pour savoir si la pizza est bonne, il faut savoir quel produit il y a dedans.
C'est vrai, ça c'est votre évolution de cette année, d'avoir été vers le produit. Mais ce qui surprend quand on va sur votre compte, vous pouvez donner d'ailleurs votre adresse @ sur Instagram.
Alors, c'est Alexis, Alexis, point pizza crusader.
Pizza Crusader, C-R-U-S-A-D-E-R. Pizza Crusader, le croisé des pizzas. Alors, la croisade. La croisade, elle dure depuis combien de temps, Alexis, d'ailleurs?
Ça fait un an et demi maintenant. Hein.
Ah, oui. Mais vous mangez deux pizzas par jour, hein, grosso modo en moyenne.
En moyenne, absolument,
ouais. Et là aussi, il est très athlétique, Alexis, comme quoi, si on se nourrit bien et si on fait gaffe, il n'y a pas de problème.
Alors, le maître mot, c'est le sourcing. Si le sourcing est bon, tout est bon.
Eh oui, les produits qu'on met dessus. Mais pas seulement. Hein, on parlait avec Morgan d'un phénomène, d'un renouveau, et je voulais vous interroger là-dessus, qui est en fait la cuisson au feu de bois, hein, dans la cuisine en général. Mais c'est vraiment les pizzaiolos qui ont initié ça, hein, parce que les fours à bois, c'est presque nécessaire pour avoir une bonne pizza.
Ben, pas forcément, en fait. Vous savez, ça dépend du type de pizza avec lequel on travaille. Il y a des pizzas romaines qui sont très bien au four électrique. Aujourd'hui, il y a de très bons fours électriques qui font de très bonnes pizzas napolitaines. Et heureusement, d'ailleurs, parce qu'à Paris, vu qu'on a beaucoup d'interdictions au feu dans les bâtiments,
c'est difficile
pour les pizzaiolos et les restaurateurs d'avoir du feu de bois tout le temps.
Alexis, lorsqu'on parle de pizza napolitaine face à la pizza romaine, vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit?
Alors, la pizza napolitaine, ça va être une pizza qui, bon, j'aime pas dire ça parce que j'aime beaucoup les napolitains, j'y suis, donc j'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose.
Oui, en plus, donc si vous attendez à la sortie de la cabine.
c'est une pizza qui est moins belle, en fait, visuellement, hein, qui est un peu plus, avec les bords un peu écrasés, la pizza vraiment classique.
Un peu plus roots, exactement.
Un peu plus molle. Ouais. Avec une hydratation environ à 75%.
Ouais.
Et qui a une cuisson flash de environ 90 secondes.
À 400 degrés, hein, on est d'accord, c'est ça, à peu
degrés,
près?
À 400 degrés, c'est fou.
Elle est saisie. La romaine, elle est cuite
entre 4 et c'est jusqu'à 5-6 minutes.
Ouais.
Alors il y en a qui la font en plaque, il y en a qui la font à le pas, c'est-à-dire qu'ils la mettent directement sur la pierre et ils font de longues plaques de pizza. Et il y a aussi la pizza classique romaine, ronde, fine et craquante.
Ce que j'adore, vous voyez, parce qu'ils vous écoutent, hein, les autres tendanceurs, et ils vous attendent au virage, hein, croyez-moi.
À la bouche.
Ils s'aiment beaucoup, mais ils s'attendent au virage en général. Non, parce que on a envie de dire, oui, comme je vous le disais, les tendanceurs, c'est pas leur métier, c'est leur passion. Et là, on voit, à vous écouter parler de la pizza, que vous connaissez vraiment bien le sujet. Alors, est-ce qu'on peut vous demander votre coup de cœur de l'année, un nom, une adresse, puisque là, on n'est plus tellement en période de pizza, mais ça va redémarrer très vite en janvier.
Vous êtes dur avec moi si vous donnez seulement une seule adresse. Après, je vais vous demander,
mais on tourne un peu.
Alors, si je devais commencer sur Paris, je suis retourné tester Adomé. C'est une pizzeria de Matteo Caprioli.
Oui.
Donc là, c'est purement napolitaine Canotto. Donc Canotto, je rappelle à nos auditeurs et à nos tendanceurs ce que c'est. C'est quand le trottoir, quand le bord de la pizza est assez épais.
Donc, d'accord.
Voilà.
Que ça gonfle, quoi, que ça fait comme un petit boudin sur le bord, presque.
Exactement. Et c'est très Instagrammable. Donc c'est très beau à voir en photo. Ça, c'est Paris. J'ai un deuxième gros coup de cœur dans une brasserie parisienne. Ça, c'est assez inattendu, qui s'appelle La Riviera.
Oui.
Donc là, on est sur de la pizza romaine. Tout le travail d'empattement et le savoir-faire a été fait par un chef que j'aime beaucoup, qui s'appelle Giuseppe Corbo, qui est un excellent pizzaiolo et qui a revisité un petit peu la pizza romaine. Et il la fait avec des produits 100% français.
Ah oui.
Voilà.
Et bien, on a le droit alors, Alexis. Le pizza Crusader n'est pas contre le produit français dans la pizza italienne.
Vincent, tant que c'est bon, il n'y a pas de frontière pour moi.
Ah, voilà. Ça, et Morgan est en train de faire oui de la tête. Là, il vous kiffe, là, sur ce, sur ce claim. Et où est-ce qu'ils se trouvent, ces deux-là, alors?
Alors, La Riviera, ils sont Paris-Centre, à côté de Gare de l'Est, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Et à Domé, ils sont à deux pas, donc Métro-Temple, à deux pas de République, rue Notre-Dame de Nazareth.
Ah, bah, génial. Voilà. Merci pour l'adresse. Vous avez goûté des trucs bien à Naples? Ou dans la région? En Campanie?
Extraordinaire ce qui se passe à Naples. Ça fait vraiment énormément de choses. En allant un petit peu dans le sud de Naples, il y a un restaurant justement qui s'appelle Amakame, hein, d'un grand chef pour moi vraiment, qui est presque un mentor, même si je ne suis pas pizzaiolo, qui s'appelle Salvatore Santucci.
Ouais.
Et ce monsieur, c'est un peu lui et un autre chef qui a écrit un petit peu la Bible de la pizza, de la nouvelle pizza napolitaine.
Ouais.
Et Amakame, ça veut dire que les bords sont assez écrasés. Donc vous avez vraiment une pizza napolitaine presque antique. Voilà, au feu de bois.
Amakame, comme c'est Makame, quoi. C'est Makame, c'est Amakame.
Amakame. Exact. Amakame, voilà, exactement. Lui, c'est un gros coup de cœur. Il y a aussi chez Pacifico, Ernesto Pacifico. Hein, ça, c'est une pizzeria vraiment dans. Là, je crois qu'on est dans le nord de Naples, si je ne me trompe pas. Enfin, là, je vois ma carte, parce que vous savez, moi, je me balade avec la voiture, je vais à gauche, je vais à droite, je suis GPS.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Au gré de la voiture, quoi. Là où l'aventure vous mène.
Là où la croisade me mène, exactement.
Voilà.
Donc là, c'est Ernesto Pacifico. Et puis bon, j'ai une liste interminable à vous faire, mais ai-je une heure avec vous?
Pas du tout. Vous allez écouter un peu vos camarades et puis je vais vous réinterroger dans quelques minutes parce que je vois Morgan Abou qui boue d'impatience de vous donner des bonnes adresses de ses coups de cœur de cette année, Morgan.
Oh là là. Et là, j'en ai un qui vient d'ouvrir qui s'appelle Moco Loco. Pour ceux qui connaissent Moco Nuts, qui est un des meilleurs coffee shops de Paris, l'association donc du chef Omar avec la pâtissière.
Son nom m'échappe.
Mais non, voilà. Moco. Et donc, Moco Nuts, Moco Loco. Donc là, ils sont partis sur de la street food. Et donc, imaginez ce burger avec des boulettes de bœuf pancetta, façon katsu, donc à la japonaise. Vous voyez cette
panure. On voit pas du tout. Vous allez nous expliquer.
La panure croustillante.
Comme le tonkatsu, c'est-à-dire. Ouais, c'est ça.
Panure croustillante. Donc, avec des pickles et de la puntanella, qui est une chicorée de Catalogne. C'est absolument divin.
Et donc, ça se mange dans la rue quand vous dites street food? On peut vraiment le manger à la main ou vaut mieux quand même avoir une
assiette? Moi, je resterai chez Moco Loco pour le déguster. En plus,
ça a l'air assez volumineux ce que vous décrivez.
Ils sont tellement sympas que ça vaut le coup de discuter avec eux. Et donc, oubliez les frites. On passe sur une salade de pommes de terre pesto avec du sumac, donc l'épice méditerranéen. Voilà. Et on termine avec un gâteau de clémentine amande. Pour ceux qui connaissent Ottolenghi, c'est une de ses recettes phares. Qui est, donc là, on mélange tous les pays. Il n'y a pas de frontières et on se régale. Franchement, donc, allez-y, c'est génial.
Quand on parle clémentine amande, moi, ça sonne un peu provençal. Hein, amande de Provence, orange, confite. Enfin, on est vraiment dans un goût méditerranéen. Là,
exactement, totalement.
Priscilla, elle fait oui, la tête. Ça vous cause clémentine amande?
Clémentine amande, oui. J'avais moi-même fait une tarte clémentine amande et... C'était une sorte de frangipane et sur laquelle j'avais posé des clémentines, un petit nappage, et c'était excellent.
Bah oui, ça marche bien les agrumes avec les amandes. Hein. On le sent bien. D'ailleurs, en pizza, est-ce qu'il y a une tendance pizza sucrée, Alexis?
Justement, je voulais revenir sur la Riviera, Vincent. Alors, chez Pacifico, j'ai goûté un truc extraordinaire. Excusez-moi de revenir à Naples, hein, mais mon cœur.
Non, mais je comprends. Je comprends. Alors, et vos pieds aussi, ils sont aujourd'hui. Alors, donc, ça tombe bien.
Exactement. J'ai goûté quelque chose d'unique que je n'avais jamais goûté auparavant. Et ça, vraiment, ça m'a bluffé. C'est une pizza frite. Hein, donc, les Napolitains font les pizzas frites en forme de calzone. Donc, ils trempent dans l'huile, vraiment.
Ah oui.
Avec à l'intérieur donc de la granella de pistacchio. Donc
comme un gros beignet quoi, un gros beignet de pizza,
gros
quoi,
beignet,
de pâte à pain.
Exactement.
D'accord.
Ouais, bien calorique comme on aime. Avec une pâte à tartiner maison, hein, c'est-à-dire que c'est pas du Nutella, c'est une pâte à tartiner qui est maison.
Oui. À noisette du Piémont, j'imagine au moins.
J'espère bien pour eux. Sinon je vais les sabrer.
On va les traquer autrement.
Exactement. Voilà donc chocolat, pistache et ils rajoutent des noix par-dessus.
Ah oui, c'est léger, ça.
Ah ben là, il faut de l'eau gazeuse pour que ça passe, hein, sinon ça marchera pas.
Oui, il faut de la San Pellegrino, c'est sûr.
Et une deuxième chose à Paris, Vincent, ouais, j'ai récupéré à la Riviera, j'ai trouvé donc un empattement au cacao,
ouais.
Où en fait, ils revisitent une poire Belle-Hélène sur une petite pizza dessert. Et ça, pour le coup, est mon vraiment.
C'est pas bête. Avec toujours ce chocolat fondant dessus, cette sauce chocolat qui vient évidemment décorer l'ensemble, j'imagine.
Cette fois-ci avec des produits français. Mais c'était vraiment exceptionnel comme rendu. Et moi, je suis très difficile en sucré et en pizza sucrée. Et là, pour le coup, ils m'ont vraiment bluffé. Vraiment.
Anne de Bâche, elle fait genre, alors là, la pizza au chocolat, je dis oui. Hein.
Tout de suite.
Et là, c'est l'empattement, attention. Hein.
Ah oui.
L'empattement au cacao.
C'est un pain au cacao.
C'est la pâte.
Ouais.
D'ailleurs, Anne de Bâche, puisqu'on parle de cela, j'ai l'impression que la boulangerie s'est beaucoup emparée du chocolat. Il n'y a pas que les pâtissiers et les chocolatiers. On voit de plus en plus de cacao dans des feuilletages, des viennoiseries au cacao ou au chocolat.
Tout à fait. Alors, dans des viennoiseries, dans du pain aussi.
Oui.
Pain au cacao avec des pépites de chocolat, on en voit de plus en plus. On voit aussi avec les babkas qui sont arrivés très fortement sur le devant de la scène, ces brioches tressées qui viennent aussi de la Méditerranée et qui sont enrichies en chocolat. Du coup, c'est
un
vrai que le chocolat.
Les baguettes viennoises, c'est-à-dire qu'on va rajouter du chocolat sur une base de pain en quelque sorte. Pain
sur
un
une
peu
base de brioche tressée.
Ou de pain au lait, oui. Non mais je veux dire, on voit souvent ça chez nos boulangers, hein, des viennoises, puis il y a la viennoise aux pépites de chocolat à côté qui sert un peu de goûter, hein, c'est devenu un peu même un goûter assez tradit, on fait la même chose avec les autres brioches. On va les chocolater en quelque sorte.
Et complètement chocolaté en fait. Ils ne se contentent plus de mettre juste quelques pépites dans une brioche nature. C'est vraiment la brioche qui devient tout chocolat avec des pépites en plus.
Voilà.
Donc brioche,
histoire
pain.
Que ça manque pas, effectivement. Bon allez mes amis, ça y est, moi j'ai, ça y est, ça commence. Hein, j'ai gravement faim. Avec nos tendanceurs en studio et au téléphone, on va se quitter un moment. On va aller taper dans une boîte qu'a apporté Priscilla. Je sens qu'il y a une brioche à l'intérieur et on se retrouve dans une seconde.
Sud Radio, Place du Marché, Vincent Fernand.
Aïe aïe aïe. J'ai été topé par la patrouille. C'est revenu trop vite, mais remettez des pubs là, j'ai la bouche pleine. C'est une horreur. Mais enfin, c'est une horreur. Non, c'est une splendeur. Bon, ouais. Priscilla, qu'est-ce que je suis en train de goûter là ?
Alors, vous êtes en train de goûter une brioche feuilletée au géant du Jat. Alors, cette brioche, elle est assez impressionnante. Elle est d'une croustillance assez inouïe. Et en fait, ce qui fait qu'elle est aussi croustillante, c'est qu'elle est recouverte d'une couche d'opaline au beurre de micel, voilà, qui va solidifier le feuilletage. Et qui va apporter de la brillance. Et on sent toutes ces notes beurrées éclatées en bouche qui se lient en toute intimité avec le géant du Jat.
Je vous entends pas commenter, Anne de Bâche.
Je ne peux pas, je mange.
Tout le monde a la bouche pleine en studio, c'est terrible.
Trop bon.
Ça, un géant du Jat qui est assez onctueux.
Moi, je ne mange pas, je suis à Naples. Ouais, et oh.
Gianduja. Bah oui, mais vous, c'est normal vu où vous êtes. Hein. Et Gianduja, c'est en fait cette pâte chocolatée et noisetée hein, qu'on trouve dans le Piémont. Ouais, parce que absolument. Le Gianduja, c'est le, effectivement une invention du Piémont. Alors, un petit mot, Priscilla. Beaucoup de brioches feuillées. On faisait des brioches jadis, et maintenant c'est les brioches feuilletées, c'est-à-dire c'est à mi-chemin entre la pâte feuilletée et la brioche.
Voilà, c'est exactement ça, et on la retrouve même dans la galette des rois, ouais, la galette du Georges V. C'est un peu, c'est de la brioche feuilletée avec de la frangipane.
D'accord.
Et on a vraiment un goût riche en beurre, mais très très.
C'est intéressant parce que là, du coup, on est à la frontière de la galette telle qu'on la connaît de feuilletage et du gâteau des rois comme on trouve dans le midi. Hein, ils ont fait un mix des deux.
On a fait un mix des deux. Voilà, ils ont fait un mix des deux et c'est. Et ça nous fait découvrir aussi une nouvelle palette de saveurs qu'on connaissait.
Et de texture,
parce qu'on a de la croustillance.
Oui, effectivement, à l'extérieur. On sort... Excusez-moi, j'ai trop mangé de brioche. Je suis désolé. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints, vous le savez, on est avec les tendanceurs ce matin. Les tendanceurs, ce sont ceux qui ne vous influencent pas, mais qui vous donnent la tendance. Alors, ils nous donnent la tendance et leur coup de cœur pour 2019. Et puis, pour 2020, quelle va être la tendance ? Je vais tout de suite poser la question à Alexis au téléphone. Avant de vous libérer et de retourner sur les pentes du Vésuve, Alexis, qu'est-ce que c'est la tendance pizza que vous voyez se dessiner pour l'année qui vient ?
La pizza romaine.
Ah ouais ? Pourquoi ?
La pizza romaine et la portafolio. Parce que déjà, Julien Serré qui fait un travail extraordinaire a ouvert déjà
Le restaurant. Fameux Mania. Hein ?
Mania
oui.
Street
Boulevard Montmartre à Paris, oui.
Absolument. Il y en a un à Richard Lenoir maintenant et il en a ouvert un maintenant.
Ah oui, c'est Richard Lenoir, c'est pas beau, c'est pas Montmartre.
Voilà. Et je peux le dire, il a ouvert aussi à Gare de Lyon.
Ah génial.
Les gens pourront enfin manger de la pizza avant de prendre le train.
Puisqu'on peut espérer qu'il y ait des trains en 2020.
En tout cas, il y aura de la pizza.
Même si vous ne prenez pas le train, allez donc à la gare de Lyon. Et Portafolio, c'est quoi ?
Alors, c'est une pizza qui est pliée en deux ou en quatre et qui se mange dans la rue. C'est une pizza tout simplement qu'on peut goûter, une street food napolitaine.
Ah, d'accord. C'est de la finger food à partir du pizza. C'est vrai que si elle n'est pas pliée, c'est plus compliqué à la main parce que ça plie, quoi. Par définition, si on la tient d'un côté, la pizza.
Souvent, on la trouve en deux à Naples, pliée en deux, mais on la plie aussi en quatre. Voilà. Et Julien Serré a eu l'ingéniosité de ramener ça à Paris avec de nouvelles recettes, de nouveaux produits qui viennent de partout, d'ailleurs, de France, d'Italie, de Grèce.
D'accord.
Voilà, il s'ouvre à tout et c'est une vraie source d'inspiration pour moi également.
Et vous voyez autre chose sur les produits, des produits qui seraient émergents en matière de pizza pour l'année qui vient ?
Il y a beaucoup de choses. Là, moi, je regarde un petit peu ce qui se passe en charcuterie parce que c'est assez toxique comme sujet et j'aime bien aller dans les sujets un petit peu compliqués. Donc, je regarde un petit peu, c'est notamment une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Rovagnati.
Ouais.
Une marque qui vient du nord de l'Italie où ils font extrêmement attention à la sélection des animaux, comment ils sont traités.
La pizza bio, par exemple, ça prend ?
La pizza bio, ça prend. Ben, la Riviera, c'est bio, par exemple.
Oui, d'accord.
Voilà. Moi, c'est pas mon cheval de bataille, la pizza bio, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses autour du bio et du naturel. Mais je pense que quand le sourcing vraiment est pointu et bien recherché, automatiquement, on se retrouve vers des produits qui sont beaucoup plus sains. Et quand on voit qu'il y a beaucoup de pizzaiolos qui s'engagent aujourd'hui à le faire, parce que ils ont plus peur de mettre les clients n'ont plus peur de mettre un certain prix pour manger de bons produits. Mm-hmm. Je pense qu'on a de l'espoir pour ça.
Bah oui, oui. Absolument. La pizza un peu gastronomique aussi, ça aussi, c'est voilà. Une tendance. Voilà. Merci Alexis, je vais vous laisser retourner, vous balader dans les rues de Naples. Ça doit être très chouette en ce moment avec les fêtes de fin d'année. Noël a dû être superbe, les processions. Enfin, on connaît quoi, tout le décorum. Et puis on se retrouvera cette année pour parler pizza avec vous. Mais il faut donner un peu la parole à vos camarades qui sont là en studio et qui ont aussi des choses à dire pour 2020. Allez, bonne journée à vous.
Allez, rentrez vite
avec de bonnes adresses. Morgan Abou, est-ce qu'il y a des tendances, je veux dire, dans la cuisine internationale, des pays qui sont vraiment là pour 2020 que l'on sent émerger ?
Alors, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, on va toujours avoir les influences méditerranéennes vont s'accroître. Ça, c'est évident. On le voit de plus en plus. La cuisine sud-américaine aussi, voire même asiatique. Ce que je vois de plus en plus, c'est qu'en fait, on avait une cuisine française qui se figeait, qui était très sur ses grands classiques. Je vois ces cultures arriver de plus en plus et venir les influencer. Nous, ce qu'on attend aujourd'hui d'un chef français, c'est qu'il aille s'inspirer et qu'il aille nous emmener vers ces cultures-là sans renier en fait les origines françaises. Donc c'est quelque chose que j'ai vu.
Donc les influences, quoi, l'intégration culinaire.
Exactement. J'ai vu admirablement fait cette année chez Fanfan. Julien Burbeau, un ancien top chef qui a voyagé beaucoup en Asie, qui maintenant reste dans sa cuisine à Paris, mais se souvient de toutes ses influences et vient les incorporer chaque jour dans des plats différents en allant sourcer justement en Asie. Bah, je pense que voilà, c'est une vraie tendance.
Je vous donne des pays, vous me dites s'ils ont le vent en poupe ou pas, parce qu'il y a des pays qui... Alors, maintenant, un peu classique, mais quand même, là, on parle de Paris, mais en dehors de Paris, par exemple, les Coréens, ce n'était encore pas connu il y a 5 ans, la Corée, c'est en pleine ascension, cuisine coréenne.
Ah oui, on l'a retrouvé cette année chez Seoul Mama, par exemple, très très bon restaurant, gourmandise est juste en face pour les gourmandes, voilà, et donc oui, j'aimerais qu'en fait ça aussi, ça se développe de plus en plus, parce que on était trop sur le bibimbap,
sur des grands classiques. Le Pérou,
cuisine alors, péruvienne. Ceviche.
Ouais.
Voilà.
C'est mieux que le cochon d'Inde, c'est sûr. On n'est pas prêt. Mais en tout cas, le Pérou a le vent en poupe. Hein. Ouais. On voit qu'il y a des très grands restaurants péruviens.
Oui, Leche des Tigrés, toutes ces influences comme ça. Oui, on va le voir de plus en plus.
Excusez-moi de dire, les îles, enfin le Pacifique, le Pokéball est devenu le premier plat demandé en vente à emporter dans le monde. Hein,
oui. Il surfe sur la vague LC totale.
C'est quoi un Pokéball, vous nous le rappelez, en un mot?
Donc on a une base de riz, ensuite on va aller avoir une série de légumes, et ensuite on va donc généralement cru, et enfin on arrive sur une dorade, un thon, un saumon cru.
D'accord, une chair animale, enfin généralement du poisson, ou de la viande blanche. Un dernier mot, là aussi il y a une autre tendance, et après je vais poser la question à ces dames, le hamburger. Mine de rien, tout le monde dit il faut manger végé, il faut manger plus de légumes, moins de viande, mais le hamburger, ça reste une tendance mondiale incroyable.
Oui. On en parlait tout à l'heure avec Mokoloko, mais c'est de manière générale, c'est ce sandwich chaud finalement qui est facile à manger.
Avec de la viande ou avec des substituts de viande.
Exactement.
Hein, parce que ça aussi, c'est une tendance.
Voilà. Là, on a même vu des gens s'aventurer sur le poulpe ou même...
Le hamburger de poulpe.
Ouais, le hamburger
de poulpe. Mais ça se mange avec 8 mains.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu compliqué. Voilà. Merci Morgan Abou, dont je rappelle votre compte, @MorganAbou, avec 2 B.
Avec 2 B,
exactement. Voilà, si vous voulez voir les photos. Priscilla, allez, peut-être une tendance sur la pâtisserie cette année, parce que tout le monde ne voit que Cédric Grolet, il faut dire qu'on nous en abreuve, mais en permanence. Est-ce qu'il y a des pâtissiers qui pointent sous Cédric Grolet?
Alors, il y a des pâtissiers qui pointent sous Cédric Grolet, mais moi, je voulais parler surtout d'une tendance qui était à travailler avec le fruit en entier, ou même le légume en entier. On est dans une tendance anti-gaspillage.
Ouais.
Voilà.
Donc, les épluchures.
Les épluchures. Il y a Johanna Lepape, qui est consultante championne des arts sucrés, qui le fait. Jessica Pralpato au Plaza Athénée.
Et, à Paris.
Et là, j'ai vu récemment également au Novotel Léal, Quentin Lechat, le faire avec le citron. Il utilise
la totalité du citron.
Voilà, le jus, ben, pas les
pépins,
bien sûr.
Pas les pépins, mais en tout cas le zeste.
Voilà, c'est fait avec beaucoup d'intelligence et il n'y a pas besoin de sucrer davantage. Le sucre, c'est dans le fruit, c'est dans aussi l'acidité.
Allez, on ne jette plus rien.
On ne jette plus rien.
Alors, du côté du chocolat, c'est un peu différent, Anne de Bâge, parce que le chocolat, on ne va pas quand même manger la peau de la cabosse.
On ne mange pas encore la peau de la cabosse, mais on mange le mucilage.
Oui,
en
c'est-à-dire
chips,
cette pulpe, la pulpe du fruit, qui entoure les fèves de cacao.
Donc on peut la manger et justement, ça m'amène à la tendance 2020 parfaitement. C'est qu'on avait parlé du cacao cru, je pense que la tendance 2020 va aller sur un travail repensé du chocolat, sur les températures de torréfaction, les températures et les durées de fermentation qui permettent en fait au chocolat de développer toute sa palette aromatique.
D'accord.
Donc les chocolatiers font des essais sur des fermentations plus ou moins longues et sur des torréfactions à température plus ou moins élevée.
C'est-à-dire qu'on sait que la torréfaction, elle tue quand même le goût du produit de base. Enfin, elle tue. Je veux pas utiliser... En tout cas, elle passe parfois au-dessus. Hein. Le goût de grillé passe au-dessus
exactement.
Du goût du produit de base.
Donc la tendance est plus à une torréfaction douce
d'accord.
et plus lente.
Comme pour le café d'ailleurs. Hein.
Comme pour le café, comme pour les cuissons. On essaye de faire des cuissons à basse température maintenant. Donc pour le chocolat, c'est pareil. Et les fermentations, ça n'avait pas encore été approché de cette façon-là, puisque la fermentation se passe dans le pays d'origine.
Ah oui.
Et du coup, on change les durées de fermentation.
Ouais, voilà, les durées de fermentation pour développer des arômes différents. Et puis chacun veut s'identifier, hein, chaque chocolatier veut avoir son goût. Hein, c'est terminé les grandes couvertures qui servent à tout le monde. C'est peut-être ça aussi. Hein.
Ils essayent d'avoir leur signature, en effet.
Voilà, leur signature gustative, leur signature aromatique. Merci mes tendanceurs. Je vous rappelle, Anne de Bâge, le chocolat dans tous nos états sur Instagram. Morgane Abou, c'est son nom. Priscilla Nozzarotti, c'est son nom. Pizza Crusader, Alexis Pizza Crusader, c'est Alexis qu'on avait en ligne du côté de Naples. Ben, j'ai envie de vous souhaiter une... Je peux pas dire belle année, mais ça porte malheur deux jours avant. Mais une belle fin d'année, là, on est carrément... On y touche, hein, bien entendu. Merci de nous avoir donné les tendances. Vous savez que l'année prochaine, on continue, hein. On va continuer de vous suivre hein, sur @les.tendanceurs, hein, déjà, une chose, et puis sur chacun de vos comptes, parce qu'on a envie de savoir. On a envie de savoir comment ça progresse, puis on a envie de savoir si vous n'êtes pas planté, surtout, dans vos pronostics pour l'année qui vient. Merci à vous tous d'être venus faire votre marché de tendance avec nous. On se retrouve dimanche prochain à 10h, et on va déguster quoi ? Bah, la galette. Ah oui, parce que vous savez quoi, on sort des fêtes et on plonge dans la galette, c'est ça le miracle français. mais je vous en reparle la semaine prochaine pour vous laisser de l'appétit, parce que là le réveillon, le dernier réveillon arrive, et généralement c'est une orgie, enfin pour tous ceux qui le peuvent, et je vous le souhaite bien. Allez, à dimanche prochain, une très belle fin d'année à l'écoute de Sud Radio.